Bonjour, je suis Katia de Louis Média. Je suis aussi maman de deux jeunes enfants de 18 mois et de 5 ans. Comme beaucoup de parents, je me suis sentie très seule à l'arrivée de mon premier enfant. J'avais plein de questions tout le temps et beaucoup d'angoisse aussi. Comme beaucoup de parents, je veux toujours le meilleur pour mes enfants. C'est comme ça que j'ai redécouvert Evian, une eau née au cœur des Alpes, pure et naturelle et adaptée à l'hydratation des bébés. Alors quand on a cherché un partenaire pour soutenir ce podcast, c'est à Evian qu'on s'est naturellement adressé. Parce qu'Evian est une marque engagée comme alliée des parents depuis plus de 50 ans. Un allié pour une parentalité vraie et décomplexée. Alors je leur ai envoyé un message et ils ont tout de suite répondu présent. C'est donc avec une certaine émotion que j'ai la joie d'introduire Evian comme sponsor de ce podcast. Evian soutient les recommandations de l'OMS pour la promotion de l'allaitement maternel pendant les 6 premiers mois. Je les remercie sincèrement. Bonne écoute.
Louis.
Vous en êtes où des prénoms ?
Alors on en est nulle part pour l'instant, alors que la date du terme fatidique approche. En fait, on essaie d'anticiper au maximum comment l'enfant pourra vivre son nom. Et évidemment, il y a des facteurs qu'on ne peut pas prédire, par exemple si une personne connue émerge qui porte le même prénom. Et donc,
tu sais que ma mère, elle m'a dit il n'y a pas longtemps qu'elle regrettait un peu de m'avoir appelée Marine à cause de Marine Le Pen.
Ah bah
tu, mais
oui.
Tu te rends compte, maintenant tout le monde pense à ça quand on pense à son prénom, et moi j'étais là, ben, pas vraiment, enfin,
non,
tu
ouais.
vois, mais elle y repense pas mal en ce moment. Quoi.
Avez-vous déjà demandé à vos parents comment ils avaient choisi votre prénom ? Était-ce une histoire de transmission familiale ? Une rencontre avec une personne formidable qui portait le prénom qui figure maintenant sur votre carte vitale ? Votre mère, enceinte, lisait peut-être un roman qui lui a inspiré votre prénom ? Non seulement nos prénoms ont une histoire, mais la façon dont on les choisit dit quelque chose de nous. Par exemple, plus vous êtes diplômé, plus il y a de chances pour que le choix du prénom de votre enfant soit le résultat d'un consensus entre les deux parents, et non la décision de l'un d'eux.
Oh, il est trop mignon. Et comment il s'appelle ?
Ben.
Carlos.
Carlos.
C'est ce que montrent les travaux des chercheuses Agnès Pelage, Olivia Samuel et Catherine Rollet. Et qu'en est-il des effets de mode ? Pourquoi y a-t-il trois Gabriel dans la classe de votre fils de 3 ans ? Pourquoi d'autres parents cherchent l'originalité ? Cherchent-ils à se raconter à travers leur enfant ? Et est-ce que les prénoms portent en eux un déterminisme ? Est-ce que certains prénoms vous prédisposent à être moqué dans la cour de récré ou à devenir ministre ? Je suis Marine Revol, bienvenue dans Fête des Gosses.
Fête des Gosses !
Fête des Gosses !
Ce jour-là, je prends un café avec mon amie Clémentine, enceinte de 8 mois.
Alors pour les garçons, c'est Nils, Paul et Camille. Et pour les filles, c'est Marianne, Marthe et Anita. Donc prénom indémodable, prénom de grand-mère et prénom de roqueuse.
C'est quoi vos critères, tu vois ? Est-ce que tu te dis qu'il faut que ce soit original mais pas trop, plutôt classique, tu vois ?
Bah justement, on n'arrive pas à décider en fait entre quelque chose d'intemporel mais qui va être très porté, ce qui fait que ce sera difficile de se démarquer quand tout le monde a le même prénom. Ou un truc plus original mais qui fait un peu gadget et qui peut être aussi très démodé très vite. Les prénoms intemporels, par exemple, c'est Paul. Et les prénoms gadget, je sais pas, Anita. Enfin, les prénoms un peu hipster qui font chanteuse à franges de groupe de rock, quoi. Donc voilà, après, c'est le classique. Est-ce que ça va avec le nom de famille, avec nos deux noms de famille ? Est-ce qu'il y aura une histoire à raconter autour de ce nom ?
Tu veux que j'en ai ?
Pas forcément, mais dans notre liste, on a aussi des noms qui viennent de nos grands-parents ou de nos familles. Mais du coup, ça fait vraiment nom de retraité, quoi. Donc, c'est aussi un problème, tu vois, tu nais de 90 ans.
Aux États-Unis, il existe même des consultants en prénom de bébé. Les prix vont de $99 pour une consultation vidéo et 16 propositions de prénom, et jusqu'à $30,000 pour ce que les 10 consultants appellent un « baby name branding ». Pour comprendre ce qui se joue derrière le choix d'un prénom, et pourquoi certains parents sont prêts à payer pour être sûrs de faire le bon choix, j'ai rencontré Baptiste Coulmont. Il est sociologue et professeur à l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Ses travaux portent notamment sur la stratification culturelle à partir de l'étude du choix des prénoms. Il a notamment publié le livre « Sociologie des prénoms » aux éditions La Découverte.
C'est un sujet de choisir un prénom parce qu'il n'y a pas de règle pour choisir un prénom. Dans les siècles passés, c'était encore la transmission du prénom. On ne donnait pas un prénom, on transmettait le prénom du grand-père ou du parrain. C'était quand même un enjeu parce qu'il y avait plusieurs transmissions possibles. Et du coup, on cherchait quand même à transmettre le prénom qui était le prénom du grand-père prestigieux, pas celui qui n'avait pas de terre, donc soit du côté paternel ou du côté maternel, ou alors si le parrain c'était le notaire du coin ou le gros commerçant, ben, donner son prénom. Donc il y avait un enjeu, mais l'enjeu c'était plutôt dans le choix du parrain plutôt que dans le choix du prénom. Mais les questions de savoir si le prénom était joli, si on aimait le prénom, si le prénom nous représentait, elles ne se posaient pas. Elles ont commencé à se poser, on va dire, au 19e siècle, quand on voit des parents qui se mettent non plus à transmettre un prénom, mais à en choisir un nouveau. On en voit des traces dans les romans de Victor Hugo ou de Balzac, où Victor Hugo et Balzac critiquent les personnes qui choisissent un prénom dans des corpus qui ne sont pas des bons corpus, donc des romans ou des engouements pour certains prénoms. Dans Les Misérables, donc il y a les époux Thénardier qui appellent leur fille Azelma et je ne sais pas quoi, et Victor Hugo dit que en ce temps-là, Madame Thénardier avait lu des romans dont l'auteur était Ossian, un faux barde celtique, et donc Victor Hugo dit en ce temps-là on ossianisait tout. Donc c'est une critique, les Thénardier c'est la famille la pire possible, et en plus ils choisissent les mauvais prénoms en prenant des prénoms dans des succès populaires et pas en donnant juste le prénom du parrain ou un prénom classique.
En France, aujourd'hui, on est libre de donner le prénom que l'on veut à son enfant tant que l'on respecte certaines règles. Le prénom ne doit pas, seul ou associé au nom de famille, être contraire à l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire être ridicule ou grossier. Le prénom doit également respecter le droit d'une autre personne à voir protéger son nom de famille. Par exemple, je ne peux pas appeler mon fils Griezmann Mbappé, comme un couple de Brive-la-Gaillarde a essayé de le faire en 2018, avant de se faire retoquer par la justice. Et enfin, un enfant qui porte le nom d'un de ses deux parents ne peut pas non plus avoir pour prénom le nom de l'autre parent. Par exemple, si je m'appelle Anne Martin et que mon enfant porte le nom de son père, disons Dupont, je ne peux pas l'appeler Martin Dupont. Ce qui change aujourd'hui, et ce qui donne l'impression que de plus en plus de parents choisissent des prénoms qui vous paraissent originaux, c'est l'augmentation de la variété des prénoms.
Il y a une citation que j'aime bien, c'est un géographe américain qui dit « Chaque prénom est un poème rédigé dans une langue inconnue dont on a perdu les dictionnaires. » Donc, ça veut dire que c'est ouvert à l'interprétation. L'interprétation poétique, l'interprétation astrologique, etc. Et c'est aussi ouvert à l'interprétation sociologique. Simplement, celle-ci, elle est plus structurée parce qu'on a une obligation de s'appuyer sur des éléments empiriques. Donc, pour les sociologues, le choix des prénoms, parce qu'il est libre et qu'il est gratuit, qu'il ne coûte rien, c'est une voie d'accès à ce que les individus qui choisissent ont dans leur tête, leur goût, ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. C'est très intéressant parce que dans beaucoup d'autres comportements de la vie sociale qu'on peut recueillir, liés à l'habillement, liés aux loisirs, etc., les choses coûtent quelque chose. Et donc, on n'a pas vraiment ce que les gens M, on a ce qu'ils sont en capacité d'acheter. Il faut faire un choix quand on a un enfant, donc c'est obligatoire. Donc tout le monde, enfin toutes les personnes qui ont un enfant doivent le faire. Et en plus, il est gratuit.
Mais comme pour un poème, le prénom est soumis aux interprétations des uns et des autres. C'est par exemple ce qu'il s'est passé pour le choix d'Abel. Mon fils porte le prénom d'un de mes amis d'enfance. Et ça me plaisait beaucoup, cette idée de transmission amicale. Mais c'est aussi un prénom qui a plusieurs niveaux de lecture. On peut le voir comme un prénom de victime. Abel, dans la Bible, c'est le frère de Caïn. Ce sont les deux premiers fils d'Adam et Ève. Et selon l'histoire biblique, Caïn tue son frère Abel parce que Dieu a accepté l'offrande d'Abel et rejeté celle de Caïn. D'ailleurs, Abel, Avel en hébreu, cela signifie « souffle évanescent » ou « buée ». C'est ce qu'explique la rabbine Delphine Horviller dans « Vivre avec nos morts ».
Mais elle raconte aussi qu'après sa disparition, Abel hurle depuis la tombe et que Dieu l'entend. Et elle écrit « Depuis la tombe, disent les sages, hurlent vers Dieu toutes les générations qui auraient dû naître à partir d'Abel. » Abel, c'est donc aussi tout ce qui aurait pu être. J'y vois donc non pas un prénom de victime, mais un prénom porteur d'espoir.
Il y a des personnes qui vont penser que tel prénom est joli, mignon, il est associé à des gens comme nous, il est pas ringard, etc. Et en fait, il suffit de franchir quelques rues, d'aller dans un autre quartier, de s'apercevoir que les connotations sont totalement différentes. On peut le voir avec, par exemple, des prénoms qui seraient des prénoms plutôt choisis par des immigrés d'Afrique du Nord en France. Il y a une très grande variété des choix possibles entre des prénoms, on va dire, classiques, Mohamed et Fatima, des prénoms plus innovants, Lina, Emna. Mais ces prénoms qui vont être choisis par différenciation, donc pas un prénom du bled, mais un prénom passe-partout, en fait, ben ces prénoms-là peuvent être vus rapidement comme des prénoms, juste des prénoms ethniques, comme d'autres. Et du point de vue de quelqu'un qui n'a aucune ascendance nord-africaine, de voir juste, bon oui, c'est prénom d'immigré. L'angoisse, elle est un peu liée à ça, elle est liée au flottement des connotations, qu'on n'est jamais certain que les connotations qu'on pensait être celles du prénom, oui, joli, beau, facile à porter, prénom de bébé, soient les mêmes en fait pour tout le monde. J'ai longtemps enseigné donc à l'Université Paris 8 en Seine-Saint-Denis. Et dans certains cours, parfois, je parlais des prénoms parce que c'est une bonne introduction à la sociologie. Donc, mes étudiantes, c'était surtout des étudiantes, plutôt des filles d'immigrés d'Afrique ou d'Afrique du Nord, parce que Seine-Saint-Denis. Elles avaient des prénoms classiques pour des enfants d'immigrés, Fatou, Inès, etc., etc. Je leur montrais le top 10 des prénoms du Figaro. Elles y voyaient pas nécessairement des prénoms aristocratiques, elles y voyaient surtout d'affreux prénoms et elles avaient pitié, en fait, des enfants. Il y en avait une qui m'avait demandé, mais en gros, ses parents sont... Pourquoi ils font ça? Est-ce qu'ils n'aiment pas leurs enfants de les appeler Kitri, Domiti ou Com? Donc là, les connotations imaginées par les parents lecteurs du Figaro... comme Cosimo de Medici, etc., etc., l'Italie de la Renaissance ou je ne sais quoi, c'était pas ce qui était vu. Ce qui était vu, c'était un affreux prénom qui ne pouvait que porter atteinte à l'image de soi que les enfants avaient.
La manière dont vous lisez et interprétez le prénom de votre enfant sera donc potentiellement différente des autres, car les interprétations et connotations dépendent d'une expérience sociale. Parce qu'il y a des interprétations possibles, et même s'il n'y a pas de déterminisme du prénom en lui-même, le prénom est le support de discrimination. On projette sur lui tout un imaginaire.
Pour beaucoup de gens, les prénoms, ils ont une essence. Pour les personnes qui vont croire à la numérologie, qui vont croire à l'astrologie, qui vont croire au saint protecteur, qui vont croire à beaucoup de choses, le prénom en lui-même porte quelque chose. Il y a des sonorités qui vont leur sembler comme des sonorités vraiment douces et féminines, et d'autres des sonorités dures et masculines. Je crois à autre chose, on va dire. Je pense que le lien entre une signification et une sonorité, il est purement arbitraire. Je vais peut-être donner un exemple. L'un s'appelle Kevin et l'autre s'appelle Eud. Est-ce qu'avec simplement un prénom différent, mais des ressources sociales égales, donc niveau de diplôme des parents, son niveau de diplôme, sa profession, le lieu où on habite, son patrimoine, ses ressources, etc., Kevin et Eud auront vraiment un destin différent. Le fond de ma pensée, c'est que non. Si Kevin et Eud ont des destins différents, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressources au départ. Mais ce n'est pas lié foncièrement à leur prénom. Après, il est très probable que des personnes qui ont exactement les mêmes ressources, mais que l'un s'appelle Mohamed et l'autre s'appelle Eud, connaissent des trajectoires différentes en raison des discriminations dont vont souffrir les personnes qui portent des prénoms arabes, musulmans ou d'Afrique subsaharienne en France. Alors l'incidence qu'on voit vraiment, en tout cas en France, elle est liée au racisme et à l'islamophobie. Les prénoms qui sont discriminés sur le marché du travail, sur le marché du logement, à l'entrée dans certains lieux, sont les prénoms musulmans ou les prénoms de l'Afrique subsaharienne. Pour les autres prénoms, on a des informations, mais qui sont moins systématiques, comme des enquêtes qui avaient pu être faites sur les sites de rencontres, où certains prénoms sont visiblement jugés moins intéressants que d'autres.
Si le prénom est donc situé socialement, il est aussi le reflet de ce que les parents veulent dire d'eux-mêmes, de l'histoire de famille qu'ils veulent construire et raconter. Caroline et son mari Nelson ont choisi de donner à leurs enfants des prénoms dérivés de leur propre prénom. Caroline et Nelson sont donc les parents de Carla et Nolan.
Moi, je voulais le prénom Nolan parce que c'était tout bête à la base. C'est quelque chose que j'avais vu à la télé, dans une série. Et c'est un prénom que j'aimais beaucoup. J'avais fait pas mal de recherches pour l'origine du prénom, voir un petit peu ce que ça pouvait représenter. Et dans mes recherches, j'avais trouvé que Nolan, c'était un dérivé donc de Nelson, entre guillemets le même prénom. Donc c'est vrai que ça a mis un point important comme argument pour convaincre mon mari finalement de partir vers ce prénom-là. Et finalement, un an et demi après, la question s'est reposée dans le sens où on allait avoir une petite fille. Et là, on s'était dit, bah pourquoi pas refaire au moins un prénom. Donc on avait fait N et N. Donc moi, c'est Caroline, et refaire un prénom qui commence par C. Et puis finalement, mon mari a proposé Carla. Et c'est là qu'on s'est dit, mais en fait, c'est évident. Parce que Carla et Caroline, c'est la même étymologie de prénom. Et là, on s'est dit, mais c'est ça. On n'a pas eu vraiment des reproches. C'est plutôt tourné en dérisoire, voilà, sur la rigolade. Ah bah oui, vous les avez appelés comme vous. Voilà, il n'y a pas trop ce côté égocentrique qui ressort. Quand j'appelle un organisme ou quoi et que je donne les prénoms, ils sont toujours perdus. Alors, c'est qui est qui? Qui est Nelson? Qui est Nolan? Puis alors, Carla, Caroline, voilà, je raconte même pas à chaque fois. C'est non, mais qui est la fille? Qui est la mère? C'est assez rigolo. Donc voilà, on a réussi à se constituer une petite identité de famille, quelque chose qui nous appartient, qui nous fait une histoire, quelque chose à raconter. En plus, moi, j'avais trouvé Nolan, Nelson a trouvé Carla. Enfin voilà, pour nous, la boucle est bouclée, tout est lié. Et ça nous correspond, en fait.
Faites des gosses.
Et c'est quoi son petit nom?
Lison.
Martin.
Marie-Cécile.
Pitchoun.
Marie-Thérèse.
Adolphe.
Ah, très drôle.
Kevin.
Laurent.
Julie.
Eh, Lilou.
Et ça rime avec quoi, Lison?
Si vous pensez à Nichon, je vous préviens, on me l'a déjà fait.
Mais oui, mais faites des gosses.
Pour les garçons, on avait Otis ou Elvis. C'est surtout des références à nos artistes préférés. C'est notre culture, c'est ce qu'on aime et qu'on veut transmettre. Oui, en même temps, on cherche l'originalité.
Arnaud est le conjoint d'Elsa et le père d'Alma, 4 ans. Et lui admet qu'il avait au départ une volonté de se démarquer par le prénom de son enfant.
Il y avait Billy, qui aurait pu servir pour les deux sexes, complètement, et Athéna, que finalement elle a gardé en deuxième prénom. On avait tous les deux envie d'avoir un prénom original, mais pour des raisons un peu différentes. Elsa, quand elle était petite, il n'y avait pas beaucoup d'Elsa autour d'elle. Elle a quasiment toujours été la seule Elsa de ses cercles d'amis. Et ça lui plaisait, ce côté un petit peu unique. Et c'est pour ça qu'elle avait envie de reproduire un peu ce schéma, de rendre son enfant unique auprès des gens qu'elle allait côtoyer dans sa vie. Moi, c'est juste que j'aime bien l'originalité, j'aime bien me démarquer en général dans la vie, que ce soit dans les choix vestimentaires, dans les goûts musicaux, enfin, un peu tout. Et nous, les clichés qu'on avait en tête, c'était les clichés qui correspondent à notre environnement. On est, on va pas se cacher, on est des bobos parisiens, on est cis, blancs, hétéros. Et on connaît des gens autour de nous qui ont des enfants qui s'appellent Ethel, qui s'appellent Jean-Eudes, etc. Et pour de vrai. Et on voulait pas rentrer dans cette case-là. Donc on voulait des prénoms qui sortent de ces critères-là et qui ne soient pas trop déjà vus ou trop donnés.
C'est aussi le cas de Lou, 24 ans, étudiante en économie sociale et solidaire, qui a choisi pour ses enfants les prénoms Nominoé et Lazuli, qui vient tout juste de naître à l'heure où j'écris cet épisode.
Le prénom de Nominoé, on l'a trouvé dans un atlas d'histoire de France. C'était donc le père du premier roi de Bretagne. En soi, on n'a pas d'attache particulière avec l'histoire de la Bretagne, bien que mon conjoint a des origines bretonnes. Mais donc, c'était juste simplement un prénom qu'on a trouvé très beau, très doux et qui a fini par devenir notre prénom préféré et donc on a fini par le choisir pour notre premier enfant. Pour lazuli, donc c'est un nom de pierre, la lapis lazuli. Et c'est simplement, on cherchait un prénom plutôt original et qui nous plaise. On a donc regardé dans le nom des pierres en fait, qu'on connaissait et qu'on pouvait apprécier. Et donc cette pierre bleu foncé, on s'est dit que c'était un très joli prénom.
Si Lou a cherché l'originalité, c'est parce que, contrairement à Elsa, elle est née avec un prénom très répandu.
On a eu plutôt envie d'avoir des prénoms originaux pour nos enfants. Parce que je me fais appeler Lou, L-O-U-P, mais je suis née en m'appelant Louise. Et avec le temps et dans tout mon parcours de vie scolaire, etc., j'ai pas très bien vécu d'avoir ce prénom parce que c'est un prénom qui était que énormément de personnes portent, un prénom très apprécié par beaucoup de personnes, mais donc dans mes classes, à l'école, dans mes groupes d'amis, dans mes groupes de connaissances, il y avait toujours d'autres Louise. Et j'avais du mal à m'approprier ce prénom. En parallèle de ça, j'ai une sœur qui s'appelle Savannah, ce qui est un prénom relativement original. Et j'aimais beaucoup voir que ce prénom, il faisait un bel effet, que les gens trouvaient ça joli, que c'était original. Voilà. J'ai décidé de me faire appeler Lou et c'était une façon pour moi de me réapproprier mon prénom, mon identité, de m'ancrer dans la personne que j'étais. En comparaison à ma sœur, j'ai un caractère beaucoup plus doux et calme et assez discret de base. Et donc j'avais envie de pouvoir faire ressortir un peu plus qui est-ce que je me sentais vraiment.
Pour Baptiste Coulmont, si les prénoms rares se multiplient, ça n'est pas uniquement parce que les parents recherchent la singularité. C'est aussi lié à un changement structurel de la fonction du prénom.
Les prénoms sont de plus en plus variés. Mais pourquoi les parents choisissent aujourd'hui beaucoup de prénoms rares pour leurs enfants? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont eux-mêmes originaux? Je ne pense pas, parce que en fait, le prénom, au cours du dernier siècle, il a changé de fonction. Le prénom, au début du XXe siècle, il était utilisé dans la famille. Les manuels de bonne manière précisaient qu'on ne s'adresse pas à quelqu'un par son prénom. À la fin du XIXe siècle, le Larousse, donc celui du dictionnaire Larousse, dit « appeler une femme par son prénom, c'est lui faire une déclaration ». Donc c'était vraiment un signe que le prénom était juste utilisé dans l'intimité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on se présente par le nom et le prénom, pas comme Monsieur un tel ou Madame un tel, mais par le nom et le prénom. Et dans de très nombreuses circonstances de la vie quotidienne, on est appelé par son prénom. On est appelé par son prénom à l'école jusqu'à l'université. Quand j'appelle mes étudiants Monsieur machin ou Madame machin, ça fait un peu une distance. Les professeurs des écoles sont appelés par leur prénom jusqu'en primaire. Quand on va dans un café, on est appelé par son prénom. Et dans le monde du travail, aujourd'hui, on est appelé par le prénom. On ne peut pas s'appeler, sauf de manière un peu humoristique, par le nom de famille. Et ce n'était pas le cas avant. Le prénom, il n'était pas utilisé au travail, il n'était pas utilisé dans le monde politique. On ne disait pas « Salut François », mais « Bonjour Monsieur Mitterrand ». Il y a des résistances encore. Une fois, il y avait un manifestant qui a dit « Ah, salut Manu » et Emmanuel Macron a dit « Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit appeler le président ». Mais sinon, dans le reste du monde, on s'appelle par le prénom. Et du coup, en fait, le prénom, il doit individualiser pour remplir sa fonction. Et les parents, en fait, ils en ont un petit une idée. Ils disent, on ne voudrait pas qu'ils soient deux ou trois dans la même classe à porter le même prénom. En France, une classe, c'est 30-35 personnes. Et donc, la pression, elle est à faire en sorte que le prénom il soit donné à moins de 3% d'une classe d'âge. Donc, les parents ne réfléchissent pas comme ça, mais ils disent, il ne faut pas que le prénom soit trop répandu. Pourquoi? Parce que l'enfant sera appelé par le prénom. Et donc, comme le prénom a changé de fonction, comme il doit servir au quotidien à identifier une personne dans un collectif de quelques dizaines de personnes, eh bien, il y a une pression à la diversification. Ce qui fait que c'est plus fort que les parents. Ce n'est pas les parents qui veulent être originaux, ils veulent juste que leur enfant soit identifié.
Le fait qu'une plus grande variété de prénoms soit donnée aujourd'hui ne veut pas dire que des effets de mode ne concentrent pas un certain nombre de prénoms au sein d'un même milieu social. Vous vous rappelez d'Arnaud, qui a donné un prénom qu'il pensait rare à son enfant. Alma. Et bien finalement, Alma est le prénom féminin le plus donné à Paris en 2022. Et sa femme, Elsa, ne le vit pas très bien.
Je voulais juste qu'il n'y ait pas 50 Alma dans sa classe. Et effectivement, c'est raté. Après, ça m'énerve beaucoup que le prénom soit dans les articles, tu sais, les 5 prénoms qui sont à la mode. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y ait d'autres Alma quand on est au square. Du coup, il y a toujours une Alma. Dans sa classe, il y a une autre Alma. Et c'est précisément ce que je voulais éviter en choisissant un prénom pas tant original, mais qu'on utilise moins.
Ce que m'a expliqué Baptiste Coulmont, c'est que les prénoms peuvent circuler d'un milieu social à un autre. Et que c'est comme ça que se créent les effets de mode.
Il y a des prénoms qui passent d'un milieu à un autre, mais ils passent, la tendance générale, c'est qu'ils passent du haut vers le bas de l'espace social. On va prendre un truc classique, Simone. Les Simone qui naissent à la fin du 19e siècle sont des filles d'aristocrates. Les Simone qui naissent en 1960 sont des filles de paysans, la Corrèze ou autre. Donc là, on a une belle circulation. Et c'est pareil avec tous les prénoms comme Émile, Philippe, même Nathalie, Sylvie. Ce sont des prénoms qui sont nés au sommet de l'espace social et qui se diffusent petit à petit. Et c'est la manière classique par laquelle les phénomènes de mode se mettent en place. Des personnes au sommet de l'échelle sociale choisissent des prénoms nouveaux parce qu'ils veulent se différencier des autres personnes qui sont situées plus bas qu'eux dans l'espace social, ou pas prendre un prénom moins prestigieux. Des personnes qui sont situées juste en dessous d'elles peuvent trouver que ah, bah, ce prénom-là, il est joli, il est sympathique. En plus, c'est des prénoms qui sont choisis par des personnes auxquelles ils voudraient ressembler. Et donc, le prénom descend comme ça les marches de l'escalier social. Et à partir du moment où un prénom comme Simone commence à être choisi par des personnes qui ne sont pas des aristocrates ou des bourgeois parisiens, mais des professions intermédiaires de province, eh bien les aristocrates l'abandonnent et en choisissent un nouveau.
Cette diffusion du haut vers le bas de l'échelle sociale s'est transformée après 1945 pour deux raisons.
D'abord, des phénomènes de mode qui touchent tout le monde au même moment. Et donc, il n'y a plus d'anticipation des classes supérieures. Je vais prendre un prénom au hasard, Nicolas ou Antoine. Tout le monde s'est mis à donner ce prénom-là au même moment, peut-être avec 2-3 ans d'avance de la part des cadres parisiens, mais très peu. Et un deuxième mouvement, qui est un mouvement plutôt de circulation horizontale des prénoms. On voit ça très bien dans les classes populaires, avec des prénoms qui sont nés et qui sont morts au sein des classes populaires, donc des prénoms plutôt anglophones ou d'inspiration celtique, hein, Kevin, Donovan, Jordan, Brandon, Jennifer, sont nés et morts au sein des classes populaires, et des prénoms qui naissent et meurent au sein des classes supérieures. Donc, on peut imaginer Geoffroy, Eudes, Guillemette, Domitille, Augustin, qui ne franchissent pas en fait, les frontières sociales, peut-être parce que ces choix nouveaux en fait, des classes supérieures, des aristocrates, de la bourgeoisie parisienne, sont structurellement différents des choix des Français moyens.
Agathe ne s'est pas posé la question du statut social du prénom de son enfant. Elle, ce qu'elle voulait, c'était une fluidité de genre qui permettrait à son enfant de s'approprier son prénom comme il le souhaite, mais sans choisir un prénom mixte. Alors elle a choisi un double prénom.
Je m'appelle Agathe, j'ai 36 ans et j'ai eu un enfant qui s'appelle Lou, avec un P comme l'animal, qui aura bientôt 18 mois. Alors pour choisir son prénom, on avait pas tellement envie de chercher quelque chose derrière lequel on mettait un sens. On a cherché surtout des sonorités qui nous plaisaient, un prénom qu'on trouvait joli. Et puis, on n'avait ni particulièrement envie de quelque chose de très original, ni particulièrement envie de quelque chose de très commun. Et puis, on a cherché un prénom de fille et un prénom de garçon, puisqu'on ne connaissait pas le sexe avant la naissance. On a un petit peu cherché du côté des prénoms épicènes, donc qui peuvent convenir pour une fille ou un garçon, sans en trouver qui nous plaisait particulièrement, mais on aimait bien l'idée. Finalement, on a trouvé un prénom de fille, un prénom de garçon. Très vite, on s'est dit qu'en fait, ces deux prénoms, c'était les prénoms qu'on avait choisis pour notre bébé, et qu'on avait envie de lui donner les deux, et pas de se dire qu'on choisissait à la naissance. Donc, on a décidé de garder les deux à coller et de simplement, en fonction du sexe à la naissance, de mettre le prénom de garçon en premier, le prénom de fille en deuxième prénom ou l'inverse. Nous, on voit plusieurs avantages derrière ce double prénom. Alors, l'idée principale, c'était que l'enfant puisse, s'il choisit à un moment de changer de prénom, puisse utiliser ce prénom. Donc, par exemple, dans le cas d'une transidentité, qu'il puisse choisir le prénom Anouk plus facilement, sans faire de procédure de changement de prénom, et puis en gardant un prénom choisi par ses parents à sa naissance. Et puis, on se dit que c'est important qu'il sache qu'on a envisagé ça, qu'il n'y a aucun problème pour nous, que c'est quelque chose qui nous paraît être dans l'univers des possibles et qu'on a envisagé, qu'on a pris en compte dès le début.
Selon Baptiste Coulmont, la démarche d'Agathe, comme l'idée de donner un prénom mixte à son enfant pour ne pas l'enfermer dans des stéréotypes de genre, est encore marginale. Mais selon 5 chercheurs chinois, elle n'est pas sans conséquences. Leur étude, publiée en 2021 dans le Journal of Infometrics, suggère que le genre d'un prénom a un effet sur sa crédibilité. Et ils ont découvert que les auteurs de travaux scientifiques qui portaient un prénom neutre avaient plus de chances d'être cités par leur père que les autres. Le prénom pourrait donc devenir un vecteur d'égalité entre les hommes et les femmes. Pour l'instant, en France, ce qui guide le choix des parents, c'est d'abord cette question. Est-ce que ce prénom est joli ? Mais là encore, le goût est mouvant, n'est-ce pas ? Il voyage entre les classes sociales. Les goûts des uns et le mauvais goût des autres. Parfois même le mauvais goût est tellement assumé qu'il devient une certaine idée du chic. Comment la génération de nos parents aurait-elle pu imaginer que nos enfants s'appellent Maurice, Colette, Marcel ou Raoul ? Comment expliquer aux parents de ce même Marcel que Kylian est le prénom le plus prestigieux du monde puisqu'il est porté par une des personnalités préférées des Français ? Le prénom est une création culturelle. Et à moins de choisir un prénom qui rentre dans les interdits de la justice, il y a de fortes chances pour que, quoi que vous choisissiez, que vos parents adhèrent ou non, qu'on loue votre originalité ou au contraire qu'on la questionne, que vous ayez l'impression d'être trop classique ou totalement hors des clous, le prénom que vous choisirez pour votre enfant portera déjà en lui une histoire et sera déjà, avant que vous ayez besoin de justifier ce choix auprès de votre enfant, l'empreinte d'une époque.
C'est quoi votre prénom ?
Fernanda.
Ah, Fernanda, c'est Fernande en français.
Oui.
Ah bon ?
C'est très joli comme prénom.
Oui.
Très joli.
Si vous avez envie de nous dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous envoyer une note vocale à hello@louismedia.com. C'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Anna Bull. La musique est de Jean Thévenin. À très bientôt.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.
Je présente mon billet, elle prend mon téléphone, elle agrandit, je vois qu'elle zoome, elle me dit « mais c'est un faux billet, madame ».
Et ce jour-là, je suis avec mon frère et je me dis « mais il se fout de moi ou quoi ?»
Je lui demande à quelle heure il rentre et là, il me ment sur l'horaire de retour et il me donne un horaire 3 heures plus tard.
Sur les coups de midi, je sais pas pourquoi, je vérifie mon application bancaire et je me rends compte que j'ai été débitée de 400 euros sur mon compte bancaire.
Je vois le policier regarder son écran, on voit qu'il y a un pavé, quoi. Et là, il me regarde et il me dit « Monsieur, je peux pas vous dire ce qu'il y a sur mon écran. Par contre, regardez-moi bien droit les yeux, fuyez. »
Je fais une marche arrière.
Et à ce moment-là, une jeune fille arrive en courant.
On lui hurle par la fenêtre que nous sommes toutes ses meufs.
Donc je lui dis « À toi, ramène ton cul ici tout de suite parce que ça va partir en cacahuète. »
Lover, voleur. Une série de 4 épisodes, tournée par Lizanne Larbani, après son enquête dans Libération à propos de Lesti, le caméléon de Tinder. Et à écouter à partir du 22 avril dans Passage, notre podcast d'histoire vraie. À très vite.